Bonsoir. Bonsoir Fabienne.
Corinne.
Nous sommes ici dans le cadre du Festival Chahut, qui a lieu tous les ans au mois de juin à Bordeaux, et qui est un festival des arts de la parole, et qui, entre autres, consacre une partie de son temps au conte. Fabienne, vous dirigez depuis 1996 les éditions Corti avec M. Fiodo. Éditions Corti que j'espère beaucoup de lecteurs connaissent, puisque c'est une vieille maison née en 38, si je ne me trompe, et qui, voilà, qui entre autres a publié Julien Gracq, que tout le monde connaît. Et nous essayons de faire en sorte que votre maison soit encore plus connue. Vous avez créé en 1998 une collection qui s'appelle Le Merveilleux. Racontez-nous un peu comment cette collection est née, pourquoi, de quelle source elle provient. Voilà, et puis comment, pourquoi, racontez-nous.
Alors, elle est née à la fois d'une passion et d'une frustration. La passion, c'est que j'ai découvert un peu tardivement le conte, peut-être presque pas forcément quand j'étais enfant, mais assez tardivement, en étant issue de la littérature comparée. Et lorsque je faisais donc des études de littérature comparée, on se bornait finalement à comparer Grimm à Perrault. Et je me suis aperçue que ce domaine était immense, que des versions de Blanche-Neige, comme ce nom ne l'indique pas, allaient jusqu'en Afrique, que des versions de Cendrillon allaient jusqu'au Tibet. Et donc, à partir de ce moment-là, une véritable passion est née pour cette transmission d'histoire, absolument sans frontières, qui, comme disent les folkloristes, s'écotype en passant dans un pays, mais avant tout voyage. Et pour me rendre compte, en faisant alors là, un peu plus sérieusement des études et en commençant un travail universitaire sur le cycle du fiancé animal dans le conte populaire, donc c'est un peu pointu, mais disons tous ces monstres qui sont métamorphosés et qui se transforment finalement en prince charmant, je me suis rendu compte qu'il manquait beaucoup de choses dans le panorama éditorial français, donc en tant qu'étudiante, en tant que lectrice, en tant que passionnée. Et je me disais, ça c'est étonnant, on n'avait pas un très bon livre de Grimm, on avait des magnifiques traductions d'Armel Gern, des magnifiques traductions de Marthe Robert, mais on n'avait pas d'ouvrage scientifique de Grimm. On n'avait pas d'ouvrage scientifique de grandes collectes qui ont suivi celle des Grimm, de Christensen, d'Arnason, etc., dont il était tout le temps question dans les bibliographies. Alors comment avoir accès à ces textes pour comparer? Des textes qui étaient collectés en islandais, qui étaient collectés en allemand, etc. Donc ça flottait dans ma tête. Passion. Frustration, quand j'ai eu la frustration merveilleuse. D'abord, j'ai eu la chance de rencontrer Bertrand Fiodo et l'entreprise Corti, tous les deux, il a souhaité que je participe à ce merveilleux bateau. Et donc, cette thèse que j'avais commencée, évidemment, Corti me donnait tellement de bonheur, de travail et intellectuel et de cœur, que je l'ai abandonnée. C'est-à-dire que... Et de cette frustration-là, je me suis dit, je vais en faire une collection. C'est-à-dire qu'au lieu de travailler pour 10 personnes qui vont m'entendre dans une université, je vais travailler pour un peu plus de monde et essayer de donner des textes qui, eux, n'étaient pas du tout disponibles au public. Donc ça a commencé comme ça, cette idée-là. Et la chance veut que lorsqu'on a l'immense chance, comme Corinne le disait, d'être dans une maison Corti qui est connue, malgré tout, qui a un label, la grande chance que j'ai, c'est que quand vous avez une idée, elle fait très vite des petits. C'est-à-dire que très vite, un petit chapeau personnel de quelqu'un qui a une idée, je ne veux pas faire les fausses modesties, mais disons que très vite, les bons traducteurs, les bons spécialistes sont venus taper à la porte parce qu'ils savaient qu'avec Corti, ils auraient une sorte d'aller-retour intéressant, fructifiant, etc., par rapport à leur propre matière. Donc ça a commencé comme ça. J'ai commencé par vouloir imposer ces collectes de contes. Et bien entendu, comment pour le grand public ou pour le public de lecteurs se dire, sous le label des éditions José Corti, connue pour être malgré tout une édition assez littéraire, C'était un challenge magnifique de proposer des textes de littérature orale, fixés par écrit à des moments par des collecteurs, par des ethnographes, par des anthropologues, par des écrivains. C'était intéressant de, sous ce label-là, de dire attention, avant toute chose, le conte est quelque chose de littéraire. C'est-à-dire que c'est la matrice pour moi, c'est pas seulement quelque chose qui se promène oralement, ça c'est la base, bien entendu, mais c'est aussi la matrice de ce qui fait que les livres existent. Alors c'est le paradoxe, c'est à la fois une matière orale, mais pour exister, il faut qu'elle soit fixée par écrit. Et si elle n'est pas propagée ensuite par des auteurs de renom, que ce soit Rabelais, que ce soit Cervantes, que ce soit Shakespeare, pour ne citer que ce va-et-vient constant entre la littérature savante et la littérature populaire, ça aussi c'est quelque chose qui me passionnait beaucoup. Donc être sous le label littéraire de Corti et imposer des collectes de contes, le temps a été un petit peu long, j'ai eu la chance d'avoir très vite l'appui des libraires qui ont tout de suite assez vu que cette collection était, il se passait quelque chose dans cette collection-là. Mais ça a été dur d'avoir le lecteur final, c'est-à-dire le lecteur lettré, qui pouvait se dire « mais je ne vais pas lire, moi, une collecte de contes danois, je ne suis plus un enfant ». Donc il a fallu abattre progressivement toutes ces choses qui étaient a priori sur le conte, c'est pour des enfants, il faut que ce soit illustré, etc., etc. Enfin, toutes ces choses qu'on a dans la tête sur le conte. Donc j'ai eu à cœur de créer cette collection pour ça. Bien entendu, comme le disait Corinne, elle s'appelle Merveilleux, ça veut dire que ce n'est pas seulement une collecte des collections de contes, mais aussi, dans cette collection, j'ai voulu qu'elle prenne plusieurs directions, des directions très, entre guillemets, littéraires, dont des textes, soit contemporains, soit du passé, qui accueillent aussi des textes dans lesquels la notion même de merveilleux, qui est vague, on peut y mettre beaucoup de choses, puisse être accueillie. Donc on a des textes qui vont jusqu'à Tatiana Harfel, une contemporaine, il peut y avoir des Robert Walser, il peut y avoir des textes de Burger, il peut y avoir des tas de choses qui n'ont pas de borne de temps, ni de borne géographique, ce qui fait que c'est une collection qui est bien pratique, puisque sans que ce soit un peu de tout, malgré tout, on peut éclater les bornes géographiques et on peut éclater les bornes du temps, puisqu'on a un texte qui vient de 1500 ans avant Jésus-Christ, qui est le premier conte attesté de l'humanité, le conte égyptien des deux frères, et on va jusqu'à Tatiana Harfel, une jeune femme de 30 ans, qui vient de publier quelque chose dans cette collection. Voilà, pour la présenter en quelques mots.
Et cette collection, vous avez des projets ?
Oui, il y a beaucoup de projets. La chance justement que l'on a, on a quelques traducteurs qui sont venus à nouveau nous trouver. J'avais un gros projet pour, à nouveau dans le domaine allemand, un dénommé Bechstein, qui est un peu le frère des Grimm, qui va être publié en novembre. C'est un ensemble de livres de contes absolument magnifiques. Et puis, le domaine grec était un petit peu, m'attirait beaucoup, puisqu'il y a eu un gros travail de fait, de collecte dans le domaine grec. Et ça va être fait aussi par une spécialiste qui a fait l'équivalent de ce qu'a fait Delarue et Ténèze, qui ont, eux, fait le catalogue raisonné du conte populaire français. Elle l'a fait pour le catalogue grec, donc il y aura aussi un énorme corpus grec d'ici un an, plus quelques projets plus lointains de contes amérindiens et encore plus lointains de contes africains. Ça pour l'aspect conte. Et puisque je ne connais pas encore, qui vient effectivement par la poste, quand on vient, ça c'est des projets, disons, non pas personnels, mais disons, pour définir les limites de la collection, qu'il n'y ait pas trop de domaines nordiques, pas trop de domaines du Sud, enfin essayer d'équilibrer tout ça entre les textes écrits et puis les textes oraux, et puis finalement ce qui vient et que je pourrais éventuellement ne pas connaître encore, puisque ça va arriver par la poste ou par des propositions.
Alors quand vous décidez d'une anthologie particulière, par exemple l'anthologie sur les Amérindiens, comment vous procédez?
Alors,
en tant qu'éditeur,
il y a deux sortes de choses. Donc, il y a les textes qui sortent vraiment entre guillemets de notre chapeau, où on est à la fois éditeur et publisher, ce que les Anglais ont bien heureusement cette définition des deux choses. Publisher, c'est quand on dit oui ou non, c'est-à-dire que le livre arrive clé en main. Je vais prendre un exemple de Grimm, par exemple. Ça faisait très longtemps, dès le départ de la collection. Je voulais absolument qu'il y ait les textes de Grimm, parce que, encore comme je vous le disais tout à l'heure, il y avait de bonnes traductions, mais pas de notes, pas de la liste typologique des contes. On y reviendra quand on parlera de l'aile, ce que c'est que la liste typologique, qu'est-ce que ça veut dire un conte type, une variante, etc. Ça n'existait pas. Donc, j'ai cherché longtemps. Donc, un traducteur que je ne nommerai pas m'avait proposé de traduire les frères Grimm. Et puis là, il a, comme on dit, jeté l'éponge. L'entreprise lui paraissait un petit peu trop importante. Mais je l'avais toujours en tête. Donc ça, c'était absolument pas en tant qu'éditeur. Je ne pouvais pas, moi, le faire, puisque je suis germaniste comme du dimanche, c'est-à-dire que je suis capable de dire 3-4 mots en allemand, mais pas capable de traduire. Donc là, en tant qu'intellectuel, comment dire, chercheur, j'étais pas du tout capable de m'attaquer au Grimm. Et puis, à l'occasion d'une rencontre sur la littérature orale, j'avais été invitée pour un précédent recueil sur les Belles et les Belles, justement, issu de cette thèse. J'ai eu la chance de pouvoir donner cette anthologie qui a eu quand même un petit peu de... qui a été un peu lue. Et on était invités dans une réunion en Aubrac sur la littérature orale. Et là, j'ai rencontré une jeune femme, Natacha Rimasson-Fertin, qui, elle, faisait sa thèse sur les Grimm versus Afanassiev, un autre grand collecteur de contes, donc russe cette fois. Et pour faire sa thèse, elle était obligée de traduire des contes, parce qu'elle s'était rendue compte qu'Amelgen, c'était très très beau, magnifique, très littéraire. Mais disons que pour aller plus près du texte, elle était obligée de traduire plus près, pour dire que tel motif se trouvait là et pas là. Enfin, donc elle était obligée de faire un travail un petit peu plus scientifique. Donc l'entendant parler comme ça, l'entendant aussi faire sa conférence, je me suis dit peut-être que je tiens là la perle rare que je cherche depuis 10 ans. Et c'est comme ça que ça a commencé. Alors ça c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Donc là, disons que je reste publisher parce que je n'ai mis que mon grain de sel de oui, attention, pas trop ceci, pas trop cela, c'est-à-dire une sorte de regard extérieur. Mais disons que c'est vraiment elle qui a fait le travail, mais là je suis un peu entre les deux puisque c'était vraiment, j'ai sollicité, je cherche, je lance dans le généralement qu'il faut. Alors pour les Amérindiens, là, on risque de, peut-être que Bertrand fera quelques traductions. Donc là, on a la chance avec les Amérindiens d'avoir un corpus tout fait, qui est celui qui a été établi par Thompson. Thompson, c'est un des grands spécialistes du conte en général et du conte amérindien en particulier. C'est lui qui, avec Antti Aarne, deux folkloristes excessivement importants, c'est des noms qui peuvent vous paraître un peu barbares à retenir, mais pour la matière, ils sont excessivement importants. Ce sont des folkloristes qui, une fois que le 19e siècle, grosso modo, pour aller vite, le 19e siècle est le siècle de grande collecte. Les Grimm collectent, et après, l'Europe entière se met à collecter. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a des contes qui sont absolument identiques, ce que je vous disais au départ. Et à partir du moment où on a vu que tous ces contes étaient identiques, la plupart des chercheurs, la plupart des intellectuels se sont posé la question d'où viennent toutes ces histoires identiques. Alors, on s'est posé des questions, est-ce que ça vient du Gange, est-ce que ça vient d'ici, est-ce que ça vient de là? Finalement, les réponses étaient tout aussi bonnes que mauvaises les unes que les autres, c'est-à-dire qu'on n'avait pas la solution, c'est-à-dire qu'on ne sait pas très très bien d'où vient un conte, on sait comment il est passé là, en reconnaissant ce que je vous disais, un accent grec, un motif qui va être suédois, etc. Le sorcier du sud va devenir un troll dans le nord, mais disons que on ne peut pas en savoir plus. Quand on a vu qu'il y avait une impasse par rapport à cette origine, le XXe siècle s'est plutôt posé la question de savoir comment ça marche, d'accord ? Comment ça marche ? Et donc, Antti Aarne et Stig Thompson, ces deux folkloristes, ont donc inventé, plutôt défini la notion de conte type et de variante. Et donc, ils ont catalogué systématiquement tous les contes qui existaient à l'époque, se basant beaucoup sur Afanassiev, se basant beaucoup sur les Grimm, se basant beaucoup sur les collectes européennes qui existaient déjà, et ont commencé tout simplement à les classer, à mettre des numéros. Alors, quand on fait une typologie, c'est intéressant, mais c'est pas force. Ça peut être, on peut toujours la remettre en cause. Mais au moins quelque chose existe. C'est la Bible des chiffres, c'est-à-dire que si on a un conte de Cendrillon, il porte tel numéro, on peut voir s'il y a une telle variante, etc. Donc à partir de ce moment-là, on avait quelque chose sur quoi travailler. Pour revenir à votre question sur les contes amérindiens, ce même Thompson a établi un catalogue choisi parmi tous les grands ethnologues, les Boas, les Métros, qui sont partis sur le terrain et qui ont fait des collectes de première main. Et donc ensuite, Stig Thompson les a rassemblés pour en faire une sorte de classique du conte amérindien. Alors c'est possible qu'on s'y mette pour traduire ça dans le domaine amérindien. Alors tout est toujours comme ça. Soit on sollicite des projets, soit on vient à nous pour les faire. Voilà.
Et les oiseaux sont venus à vous ? Vous avez été vers les oiseaux ?
Un peu des deux. Un peu des deux. Alors ça, c'est une belle histoire. Mon intérêt pour... Alors ça, c'est une autre passion, mon intérêt pour l'ornithologie. Elle est née il y a à peu près 8 ans, dans un voyage qu'on a fait avec Bertrand Fiodo aux États-Unis, en Floride. aux Everglades. Tout à coup, tous ces oiseaux étaient là, tout près, et au lieu de j'étais désespérée de ne pas savoir les nommer. Et quand ne commencez jamais comme ça. Ne commencez jamais à vouloir nommer un oiseau. Vous êtes perdu pour la cause, parce que vous vous dites bon, parce que si je sais nommer un green heron dans le sud de la Floride, pourquoi après je ne saurais pas faire la différence entre un grand héron chez moi et puis un bihoreau et un blond guionnin. Vous êtes foutu. C'est-à-dire que là, l'ornithologie vous prend et vous vous arrêtez plus. Ça a commencé avec le regard. Ça a commencé avec les voyages, ça continue avec les sons, enfin, etc. Et puis tout à coup, je me suis dit, mais pourquoi ne pas mélanger ces deux passions ? C'est-à-dire la passion que j'avais déjà un tout petit peu amorcée, comme je vous le disais, avec le cycle du fiancé animal, une passion qui est très forte et qui est de plus en plus prenante pour le vivant en général, sa position par rapport, nous, Homo sapiens. Hein, je fais exprès de nommer la binomenclature de l'inné. La position du vivant par rapport à nous, ça c'est un projet, c'est un sujet qui me fascine éperdument. Et puis les oiseaux, passion de naturalistes amateurs qui se promènent et qui les aiment, qui aiment leur chant, qui aiment leur couleur. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Est-ce que dans le conte populaire de tradition orale, est-ce que l'oiseau a du sens ? Autrement dit, est-ce que le motif de l'oiseau dans les contes fait tenir l'histoire, ou bien si on remplace l'oiseau par un autre animal, l'histoire continue à tenir. Et je me suis rendu compte que finalement, c'était vraiment l'oiseau en tant que tel fait tenir l'histoire. C'est-à-dire que ça, on sait bien, il vole, il va sur terre, il va sur mer, etc. Il a beaucoup de qualificatifs, de qualité, mais c'est vrai que l'oiseau fait souvent tenir l'histoire. Donc ça m'a amusé d'aller voir de façon systématique. Alors comment j'ai procédé ? Comme je vous le disais, avec la chance que j'ai de cette passion du conte, j'avais beaucoup, 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 beaucoup de corpus qui viennent de tous les pays, de toutes les nations, de tous les continents. Je me suis donné deux obligations. Que tous les continents soient représentés et que la plupart des contes issus de cette fameuse Bible dont je vous ai parlé soient représentés aussi. Autrement dit, qu'on ait à travers l'oiseau une sorte d'histoire du conte et qu'à travers le conte, on ait une histoire de l'oiseau. C'est-à-dire que est-ce que c'était possible de faire une sorte de va-et-vient entre une passion naturaliste et une passion pour le conte ? Et c'est ce que j'ai tenté de faire, c'est-à-dire qu'à travers l'anthologie, donc l'anthologie, comment après trouver tous ces textes ? Ben finalement, c'était relativement, disons, simple. Non, je vais pas non plus dire que les choses ont été très simples. Il a fallu trouver des textes de partout, c'est-à-dire que là, il y avait déjà la bibliothèque que j'ai constituée depuis longtemps. La chance que Bertrand Fiodo m'a aidé pour certaines traductions de l'espagnol, langue que je ne maîtrise pas, ce qui fait qu'on avait tout un continent de collectes d'Amérique du Sud qui s'ouvrait également. Moi, j'ai pu traduire de l'anglais et de l'allemand, ce qui fait qu'à ces trois langues-là, on avait des collectes qui étaient un peu partout. Et si je ne suis pas germaniste, si je ne suis pas angliciste, c'est vrai que par rapport à une matière que l'on connaît très très bien, on peut ne pas faire de trop d'erreurs pour traduire ces textes, etc. Donc, pourquoi représenter la plupart des contes types dont je vous parlais ? Pourquoi ? Parce que Anti-Arne et Steve Thompson ont séparé tous leurs contes types en trois grandes familles. Les contes d'animaux d'abord, les contes merveilleux ensuite, puis les contes facétieux, ensuite on passe aux contes de nouvelles, etc. Ça paraît tomber sous le sens que lorsque, dans les contes d'oiseaux proprement dit, l'oiseau fasse tenir l'histoire. Pourquoi ? Dans ces contes d'animaux, on est dans un univers entièrement animal. Autrement dit, l'humain n'intervient pas beaucoup, ça ressemble beaucoup aux fables. Ou bien alors ce sont des contes qu'on appelle des contes étiologiques, qui vous disent pourquoi tel animal, pourquoi l'hirondelle a la queue fourchue, pourquoi le rouge-gorge a la gorge rouge. C'est ce qu'on appelle des contes étiologiques. Donc on se rend bien compte que là, on ne peut pas remplacer un animal par un autre, puisqu'on explique pourquoi il est comme ça, alors, à travers des légendes, etc. En revanche aussi, ce qui est intéressant, c'est dans le conte merveilleux, on s'aperçoit que dès que l'oiseau a partie liée avec l'âme, systématiquement, c'est toujours lui qui est présent. Autrement dit, si le héros doit faire appel à l'au-delà, si le héros doit avoir, s'il y a eu un mort qu'il doit l'aider, l'oiseau est toujours présent aussi. C'est-à-dire que l'oiseau, là, on s'aperçoit que ce n'est pas seulement une aide, mais c'est aussi ce qu'on appelle un être psychopompe, c'est-à-dire qui fait passer les âmes d'un côté comme de l'autre. Et à travers le conte, j'ai essayé aussi de montrer, dans la mesure du possible, je ne sais pas si certains d'entre vous sont familiers avec les travaux d'un Philippe Descola. Philippe Descola, lui, il a démontré que je vais essayer de le dire, c'est assez complexe, je vais essayer de le dire sans rien dénaturer à sa pensée. Il a essayé de démontrer que finalement, il y avait quatre ontologies du vivant, c'est-à-dire quatre manières que l'homme a de se représenter, lui, vis-à-vis du vivant. Et il démontre qu'effectivement, les Indiens d'Amérique du Sud, par exemple, ont une sorte de, qui sont animistes, ont une continuité de fait entre l'humain et le vivant qui est autour de lui. J'ai essayé d'utiliser cette thèse-là en me disant, est-ce que même pour le conte européen, il n'y aurait pas dans ces contes une sorte de survivance aussi de cette continuité qu'il y a entre nous et le vivant? Parce qu'on s'aperçoit que la plupart des conteurs, lorsqu'ils racontent des histoires, ils ont une connaissance intime de la nature, ils ont une connaissance intime du vivant et une connaissance intime des oiseaux. Et c'est vrai que la grille d'analyse de Descola pouvait aussi fonctionner pour le conte populaire de tradition orale. Autrement dit, cette rupture qu'on a cru avoir, nous, Européens, entre nous et notre environnement, c'est-à-dire on a une vision scientifique du vivant, pas animiste, pas totémique, etc., dans le conte, on pourrait penser que quelque chose comme cela reste, c'est-à-dire une sorte de continuité entre nous et le monde extérieur qui pourrait s'apparenter un petit peu à d'autres pensées que celles qu'on s'est imposées en tant que scientifique. Donc là, c'était intéressant de voir que dans le conte, il y avait toutes ces choses-là, pas seulement la passion de l'oiseau, de la bête pour ce qu'elle est, mais également comment il intervient dans ces différentes histoires en continuité, nous vivants, avec l'extérieur.
Donc, quels sont ces différents rôles de l'oiseau dans les contes? Est-ce qu'il y a des rôles différents suivant les continents? Est-ce qu'il y a des rôles différents suivant les époques?
Non, alors déjà, la difficulté avec le conte, c'est de les dater, puisque on est incapable de dater les contes à partir du moment où on parle de tradition orale. Donc il n'y a pas de carbone 14 pour dire ce conte-là vient de telle et telle époque, etc. Non, les oiseaux sont très souvent des aides, des auxiliaires, c'est-à-dire ils aident très souvent le héros à passer d'un monde à l'autre. Ils aident le héros, disons, dans toutes les épreuves du conte, les épreuves qualifiantes ou les épreuves décisives. Ils sont toujours là en tant qu'aide pour qu'il aille un peu plus loin dans sa quête. Ils sont parfois pas seulement des adjuvants, mais sont carrément les héros de l'histoire, à savoir, par exemple, tout ce cycle de l'oiseau de vérité ou de l'oiseau d'or. Très souvent dans les contes, lorsque l'oiseau générique est nommé, le merle blanc, ou etc., ils sont carrément les héros de l'histoire. C'est-à-dire que c'est non seulement des aides, mais ce sont ceux vers lesquels, qui sont objets de la quête du héros proprement dit. C'est-à-dire que pour que le héros puisse obtenir la princesse, etc., ils doivent déjà obtenir l'oiseau d'or, qui est en tant que tel la quête même de l'oiseau. Alors, ils sont très souvent, oui, c'est ça, des aides. Ils font passer, comme je vous disais, de vie à trépas. Et puis, plus encore que ça, dans beaucoup de, notamment chez les Amérindiens, les Indiens d'Amérique du Nord, les Amérindiens, il est très souvent ni plus ni moins que Dieu lui-même, puisque dans certaines traditions, notamment dans les Indiens du Pacifique, il est le corbeau, et ça se retrouve jusqu'en Sibérie. Le corbeau est le créateur du monde, c'est-à-dire que grand corbeau, c'est celui qui crée ni plus ni moins le monde. Alors dans ces univers amérindiens-là, ce qui est assez passionnant, c'est de voir que là encore, on est dans une transformation très très possible entre l'oiseau et l'homme. En ce temps-là, disent les anciens, quand corbeau était un homme, et inversement, en ce temps-là, quand homme était corbeau. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de confusion consentie entre la bête et l'homme, puisque on sait qu'en ce temps-là, les bêtes et les hommes se parlaient, se comprenaient, etc. Alors que dès qu'on passe, malgré tout, dans le continent européen, le héros doit acquérir le langage des bêtes comme une sorte de surplus de don, alors que dans les civilisations amérindiennes, c'était quelque chose qui existait in illo tempore, il y a longtemps. Donc, c'est-à-dire que l'oiseau était finalement très souvent le créateur pour ces ethnies-là. Donc il a des rôles, il a le rôle de, donc encore une fois, donc adjuvant, créateur, objet de la quête. Et dans tout ce cycle de métamorphose, c'est la femme ou le mari. C'est-à-dire que c'est souvent... Alors là, on s'éloigne un petit peu de l'oiseau qui fait tenir l'histoire en tant que telle, mmh. puisque c'est souvent un être métamorphosé qui doit retrouver son apparence humaine grâce à la quête. Mais les histoires sont d'autant plus fortes que précisément que cet animal est un oiseau, puisqu'il a cette capacité de... métamorphique, de passer d'un monde à l'autre encore plus comment dire, avec dans tous les stades des éléments, l'air, la terre, le feu, ben oui, le feu existe également puisqu'on a inventé l'oiseau phénix. Donc l'oiseau il peut transcender les temps, la géographie et même la forme.
Alors est-ce que justement tous ces oiseaux ont à voir avec l'art poétique?
Alors l'art poétique, c'est une magnifique question. Ça rentre pas vraiment dans... comment dire ?
Je la pose peut-être mal, mais...
C'est une question absolument magnifique. C'est que à partir du moment où... Si j'avais voulu dire, avec cette anthologie, va se créer un art poétique, j'aurais complètement... je n'aurais pas du tout réussi cette histoire-là. Mais à partir du moment où... au terme de tous ces petits blocs qui ont été posés, les continents, les temps, les couleurs, les formes, l'air, le feu, les éléments, à partir du moment où on s'aperçoit que l'oiseau a traversé tout ça, et si on peut avoir l'intuition que finalement d'autres types d'aides n'ont pas eu cette chance-là, que d'autres types d'ordres animaliers n'ont pas eu cette chance-là, que d'autres types de héros n'ont pas eu cette capacité de transcender tous les genres, toutes les époques, toutes les géographies, etc. Alors oui, il y a un art poétique à son insu. Mm-hmm. C'est-à-dire que tout se passe comme si l'oiseau et le conte dansent dans leur... Mais si je le disais a priori, ce serait d'une prétention énorme, non pas pour moi-même, mais presque pour la matière. Mm-hmm. C'est-à-dire que si on voulait a priori réussir à prouver qu'il y a un art poétique à travers cette thématique-là, mm-hmm. on ferait fausse route. Mm-hmm. J'espère que le lecteur, en ayant fini cette anthologie, se dise, et finalement, quel domaine n'a pas été abordé. Il s'apercevra que peut-être... D'une certaine manière, l'oiseau, non pas, moi je ne l'ai pas abordé en tant que qu'analyste ou en tant que chercheur, mais que simplement par les petites notes, d'où il apparaît, comment les hommes l'ont vu, ici ou là, peut-être qu'effectivement, comme vous dites, Corinne, je l'espère. En tout cas, c'est ce que j'espère. Alors évidemment, c'est très immodeste de parler de quelque chose qui, là, est plus précis pour moi, qui est un art poétique que j'ai voulu créer, dans la poésie elle-même, puisque j'ai écrit un livre en parallèle de celui-là, qui est un livre de pure poésie pour un éditeur qui va... Ouais. Voilà.
Fabienne est aussi poète, elle publie chez Hérolimite.
Chez Hérolimite, donc ça c'est autre chose, c'est le versant. Donc vous me lancez, c'est très immodeste de parler de ça par rapport à ça, mais à partir du moment où, comment dire, alors là je vais redevenir non pas modeste, mais vraiment à ma place. Tout se passe comme si, voulant en poésie, écrire quelque chose qui soit un hymne en l'honneur de l'oiseau, où toutes les familles soient représentées, où tous les genres soient représentés, j'avais fait beaucoup moins bien que ce que des millénaires d'histoires de contes avaient fait, et que, à mon insu, simplement en faisant des petites notes, simplement en donnant à lire toutes ces histoires qui venaient de partout, peut-être que c'est là-dedans le livre de poèmes. Et pas... Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand on veut une matière aussi volatile, et ça c'est vraiment sans jeu de mots, que le conte populaire de tradition orale, si a priori on veut le forcer vers un endroit, il s'échappe. C'est ce que les structuralistes n'ont pas réussi à réduire le conte, les psychanalystes n'ont pas réussi à le mettre complètement sur le divan. Les anthropologues du 19e siècle n'ont pas réussi à définir d'où il venait.
C'est un oiseau, il s'envole.
Et voilà, l'oiseau s'envole et la matière est une matière, il y a un mot justement de Nicole Belmont qui est magnifique, un conte populaire de tradition orale est un conte à son insu. C'est-à-dire que si, a priori, un auteur contemporain voulait réussir à être en compétition avec, comment dire, vouloir inventer un petit chaperon rouge, sauf s'il le fait en voulant le détourner, en voulant l'adapter, en voulant faire une pièce de théâtre, comme a pu le faire Blanche-Neige, avec, comme l'a pu le faire Balzer avec Blanche-Neige et Cendrillon. Il ne pourrait pas, parce qu'à partir du moment où toute cette matière a été vraiment roulée depuis très très longtemps, sans qu'on sache vraiment quelle est son origine. Alors, à mon sens, peut-être que je me trompe, mais sans vouloir le démontrer, l'oiseau, comment dire, redouble encore cette histoire, puisque l'oiseau a tellement fasciné toutes les nations. Où qu'on se trouve, l'oiseau a toujours fasciné. Ce sont les papous qui vont penser que, mettant les plumes, ils vont s'incorporer le pouvoir de l'oiseau. Ce sont les Indiens d'Amérique du Sud qui vont, en allant chasser, en allant le ramener, vont avoir ces pouvoirs de passage, de métamorphose. Ce sont les Amérindiens du Nord qui vont penser que Corbeau est ni plus ni moins que le créateur du monde. Ce sont tous les conteurs européens qui vont imiter son chant. On va faire de la mimologie.
Voilà. Est-ce que ça tient aussi au fait que l'oiseau chante, qu'il a à voir avec la musique?
Absolument. Alors ça, c'est extraordinaire, parce que justement, il y a toute une série de contes que Auntie Arne et Steen Thompson ont appelés de manière savante des contes de mimologie. Et des contes de mimologie. Et systématiquement, les oiseaux en ont il y a énormément de contes. Là, je voudrais que je trouve un exemple concret, mais de contes mimologiques, à savoir, on dit quelque chose qui a du sens à l'oreille, et ce faisant, on imite le chant de l'oiseau. L'oriot qui a l'or, là, je ne sais pas le faire spontanément, parce que je ne suis pas conteuse, mais... les contes de le chant a véritablement fasciné les humains, à tel point que un merveilleux ethnologue qui s'appelle Daniel Fabre a étudié justement cette fascination qu'ont les petits garçons pour les oiseaux, pour dénicher les oiseaux
et siffler,
pour essayer d'imiter leur chant, et l'a relié avec la sexualité des garçons. C'est-à-dire que il a pu démontrer finalement que le petit oiseau va sortir, etc. Toute cette carte du temps qu'on peut avoir dans le vocabulaire, Daniel Fabre a pu démontrer que la manière dont les jeunes garçons vont essayer de dénicher les oiseaux et d'imiter leur chant a un rapport avec le fait qu'ensuite, c'est au moment de la puberté où ils le font, très souvent, dans le sud de la France, etc. Et très souvent, c'est la voie d'accès merveilleuse à la sexualité, à la puberté, etc. Donc ça, c'est l'aspect un peu concret de l'affaire. Pour le côté émerveillement, c'est vrai que... Donc, je continue avec Daniel Fabre, parce que lui a réussi à essayer de montrer que justement, les chants ont tellement fasciné que il y a beaucoup d'histoires de contes à relier avec cette fascination pour l'oiseau, qui sont les contes qu'on appelle le langage des animaux, et qui est un conte assez extraordinaire c'est souvent un berger qui sauve une vipère du feu. Et cette vipère lui dit, écoute, je veux te remercier pour ça, tu demanderas à mes parents le droit d'entendre le langage des oiseaux en général, et des animaux en général, et des oiseaux en particulier. Et donc il obtient cette capacité de comprendre le langage des animaux. Et donc grâce à ça, il trouve un trésor. Grâce au trésor, il peut épouser une femme qu'il aime, etc. Et puis les années passent, et... Bien entendu, connaître ce langage des animaux était assorti d'une clause importante, c'est que tu ne devras jamais parler de ton don, sinon tu perds la vie. Et une fois qu'il est marié, à un moment, il entend quelque chose de drôle qu'un taureau dit à la vache. Il comprend, donc il se met à éclater de rire. Et à partir de ce moment-là, la femme n'a de cesse qu'il lui raconte l'histoire. Et finalement, donc il va pour dire au revoir à tout le monde, parce qu'il sait que s'il lui raconte comment il connaît cette histoire du langage des animaux, bien, ma foi, il sera obligé il va mourir. Et finalement, grâce à son don, il entend un coq qui parle à ses poules et qui dit, mais vraiment, il est pas très malin, celui-là, parce que moi, je sais bien comment j'aurais fait, j'aurais dit à mes poules, inutile de savoir pourquoi je connais tout ça, vous ne le saurez pas, et donc il est pas assez fort comme homme, il met pas sa femme de poule, etc. Donc, entendant le coq parler comme ça, il revient vers sa femme, il lui dit « je ne te dirai pas », etc., etc. Et donc il peut conserver son don et il n'a pas besoin de mourir. Donc dans toute cette série de contes « Le langage des animaux », ça s'assortit toujours d'une petite terminaison assez misogyne, alors que précisément, dans les contes amérindiens, on présuppose que, d'ailleurs c'est très souvent inversé, c'est une femme qui a le don et c'est pas un homme, et donc c'est complètement inversé, et surtout... On présuppose qu'elle regagne, étant chamane, elle regagne un don que les humains avaient perdu. Donc là, on voit vraiment que ces deux liens sont très forts. Alors pour répondre plus précisément à votre question, il y a non seulement cette histoire de langage des oiseaux qui a fasciné, et toute cette mimologie qui a essayé de le retranscrire avec notre malheureux larynx qui n'est pas aussi fort que la syrinx des oiseaux. Mm-hmm. Donc ces contes de mimologie essayent de dire quelque chose qui a du sens et qui reproduit complètement le langage des oiseaux. Donc, ils ont fasciné par leur chant, ils ont fasciné par leur couleur, ils ont fasciné par toutes les fonctions de liberté, des fonctions de encore une fois, de psychopompe. Donc ils sont dans toutes les sphères de l'humanité.
Et dans ces contes, est-ce qu'il y a des oiseaux récurrents?
Alors, les oiseaux qui reviennent le plus souvent sont, en termes d'oiseaux génériques, sont les aigles et les corbeaux. Alors, dans ce recueil, j'ai essayé de faire des statistiques systématiques, mais en tout cas, c'est ce qui revient le plus souvent dans ce recueil-là. Et en essayant d'extrapoler à des contes que je n'ai pas retenus pour le corpus, parce qu'ils étaient redondants ou ils étaient trop éloignés de l'objet vers là où je voulais arriver. Donc, l'aigle et le corbeau. Et alors, dans les contes, plus on est dans des contes de type étiologique, de contes mimologiques, ce qui est très intéressant, c'est qu'on n'est plus dans le l'oiseau générique, un aigle, un moineau, etc., mais on est vraiment dans des contes, dans des oiseaux spécifiques. Dans des contes, par exemple, je pense au conte du pinson du Nord et du conte du pinson du Nord et de la grive, qui raconte pourquoi le pinson du Nord a un chant qui est très laid et que la grive a un chant extraordinaire. L'oiseau spécifique est nommé, donc une grive et une grive en tant qu'espèce et un pinson du Nord. Donc autrement dit, plus on veut spécifier la rareté que la bête a, qui présuppose donc une analyse, une observation de la nature qui est très précise, plus l'oiseau n'est pas seulement nommé comme un oiseau comme n'importe lequel, mais vraiment spécifique. C'est pour ça que j'ai tenu dans cette anthologie à donner un index précis non seulement de tous les oiseaux cités, mais aussi de la spécificité et où est-ce qu'on les retrouve, où est-ce qu'on les retrouve, dans quel conte, etc., dans le recueil, pas seulement les contes qui étaient là.
Par curiosité, pourquoi le corbeau, autant on peut comprendre que l'aigle le fascine, pourquoi le corbeau, qu'est-ce qui...
Alors le corbeau, je peux imaginer que il a tout le temps été... Déjà, le corbeau, c'est un des animaux, à mon sens, là j'ai pas étudié précisément pourquoi le corbeau, mais en tout cas, il me semble, on peut réfléchir tous ensemble, mais il me semble que le corbeau, c'est à la fois un être ambivalent, puisqu'il est... Dès qu'il y a plumage noir, il y a mauvais augure, ou il y a, disons, un... Et la proximité du fait, tous les corvidés, que ce soit les pies, que ce soit les corbeaux, que ce soit les geais, donc la famille des corvidés, sont des oiseaux qui sont des commensales de l'homme, qui viennent très très près de l'homme, donc ils sont... Ils exercent une fascination comme une répulsion. C'est un petit peu, je comparerais un tout petit peu le corbeau au hibou. Donc, alors, selon les nations, en Europe, pratiquement, le corbeau est très souvent de mauvais augure. C'est-à-dire qu'il est toujours, plutôt que d'être une aide, il va plutôt être un opposant, disons un adversaire dans les contes. Si on doit opposer deux oiseaux, le corbeau va souvent figurer comme un adversaire dans les contes européens. Et puis, dans les contes, disons, de tradition des nations premières, il aura plutôt tendance à avoir une position, on va plutôt accentuer son aspect intelligent, proche de l'homme, jusqu'à, comme je vous le disais tout à l'heure, en faire un dieu. Donc je pense que c'est la proximité de l'oiseau bien repéré, bien connu tout simplement. En fait, on retrouve, je crois, ça me paraît assez logique, je pense qu'on retrouve d'autant plus de récurrence d'un oiseau dans les contes qu'il est aussi récurrent dans la nature. C'est-à-dire que le corbeau est près de... Alors évidemment, il n'y a pas beaucoup de moineaux, mais malgré tout, ils viennent très vite en dessous. Donc, voilà, je dirais, l'aigle, parce que l'aigle a tout le temps, mais toutes les nations étaient fascinées par l'aigle, on sait bien que le bald eagle est même devenu l'emblème des États-Unis. Petite histoire, ça devait être la... Turkey, la dinde, ça devait être la dinde qui devait être l'emblème américain, parce que c'était le premier Roosevelt qui s'était dit ça représente bien le pilgrim qui arrive, etc. Puis finalement, ça a été fort heureusement, ils ont écouté un peu plus l'emblème amérindien, puisque comme vous le savez, l'aigle est un oiseau qui revient très très souvent dans les légendes amérindiennes pour leur force, pour leur habileté, etc. Alors, très souvent, il y a des confusions entre l'aigle et le vautour, puisque c'est assez récent. On faisait souvent quand on a traduit, par exemple, même dans les hiéroglyphes, quand on a traduit vautour-aigle, les choses n'étaient pas toujours très 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 claires. Mm-hmm. Donc peut-être qu'il y a une sorte de deux voix, la voix solaire et la voix plutôt cadavre, enfin, etc., d'un même oiseau, puisque l'aigle a souvent une c'est assez rare que des oiseaux aussi importants que l'aigle, que le corbeau, n'est pas une ambivalence de symboles selon les pays, selon les contes et selon ce qu'on veut leur faire dire. C'est des oiseaux génériques qui sont tellement présents qu'effectivement on peut leur faire dire beaucoup de choses. Mais l'aigle, évidemment, c'est la gloire, la puissance, etc.
J'ai l'impression que l'oiseau, enfin, vous citez Bachelard, l'oiseau réalise l'image première, celle que nous vivons dans les sommeils profonds de notre jeunesse. J'ai l'impression que l'oiseau a à voir un peu avec notre inconscient.
Oui, l'inconscient et puis l'inconscient, l'impalpable et peut-être aussi l'invisible, parce que à partir du moment où concrètement et abstraitement, je pense. Concrètement, parce qu'effectivement, le géographiquement, l'oiseau migrateur. Tout bêtement, l'oiseau est migrateur. Et quand vous parlez d'inconscient, c'est un inconscient qui peut presque être un inconscient d'incompréhension de où vont toutes ces hirondelles chaque année, où elles disparaissent. Les anciens pensaient que tout simplement elles ressuscitaient. Donc le lien avec la mort est presque concret, puisque les migrations, on a mis beaucoup, beaucoup de temps à expliquer ce phénomène migratoire qui est un phénomène absolument extraordinaire. Et... Donc, quand on voyait revenir à période constante tous ces vols migratoires qui revenaient exactement au même espace, qui correspondaient parfois, notamment chez les Égyptiens, le retour périodique de l'ibis sacré était corollaire de la montée des crues du Nil, ce qui fait que l'ibis sacré, comme c'est merveilleux, l'ibis sacré qui revenant était coïncident avec les crues du Nil et qui, en même temps, a donné l'élément de l'écriture, c'est-à-dire que lui inscrivait dans son vol la fertilité du sol, et voilà qui va devenir le symbole de Thoth qui va donner l'écriture aux Égyptiens. Bon, ça, je m'égare un peu par rapport à votre question, mais pour en revenir à une chose très concrète, c'est-à-dire que c'est absolument, naturellement et évidemment un animal... Qui favorise totalement l'imaginaire. On ne sait pas où il va, on ne sait pas d'où il vient. Pendant très longtemps, on a vu toutes ces catégories immenses de liberté, d'espace, etc. On comprend tout naturellement par sa fonction toute bête, organique, qu'il est plus fasciné les êtres humains. Petit détail qui a son importance on a toujours tenté depuis, je crois que, je ne saurais pas très bien fixer le moment où on a essayé le premier aréoplane à essayer de voler comme des oiseaux, à essayer d'imiter les ailes de la chauve-souris, etc., etc. D'ailleurs, au départ, petite histoire qui a son importance, en français, l'avion devait s'appeler aéroplane au départ, et il a été changé en avion, non-avion, où on entend le mot d'avesse, qui est donc la racine du mot oiseau. Donc On voit bien que vole pratiquement métonymiquement la plume, c'est l'oiseau, métonymiquement le vol, c'est l'oiseau, métonymiquement dans l'autre sens, la liberté, c'est l'oiseau. Pouvoir aller d'un espace à un autre, etc. Donc imaginaire, évidemment, et dans les contes qui sont effectivement un témoin de l'imaginaire par définition.
Je vais devoir arrêter l'oiseau Corti. Je suis désolée, mais vous n'êtes pas un rossignol et je ne vous laisserai pas chanter toute la nuit. Merci beaucoup, Fabienne Raffoz, de diriger cette collection qui est absolument extraordinaire. Et celui-là, en particulier, les dessins sont magnifiques. Il y a même un cahier central avec en couleur, avec des reproductions d'oiseaux. Voilà, ça fait rêver. Merci beaucoup.
Merci.
Et puis, ouvrons nos oreilles et écoutons les oiseaux.
Merci.